Chers amis, chers collègues, voici l'ouverture du 12e colloque de notre société de thérapie familiale psychanalytique de l'Île-de-France. Avec son beau thème, corps familial, héritage psychique et corporel. Je remercie tous les intervenants, les organisateurs, les participants à ce colloque. Nous sommes nombreux, les inscriptions ont été au rendez-vous. Plus de 300 dans la salle, merci d'être venus si nombreux, à ce rendez-vous qui n'est non plus annuel, mais qui se déroule tous les 2 ans maintenant et qui a lieu en alternance avec la Société de thérapie familiale nationale, qui aura son prochain colloque sur Paris en janvier. Je remercie Madame Outardier, notre secrétaire, toujours précieuse, qui a été l'une d'entre nous très active pour préparer ce colloque. J'espère que ce colloque va tenir sa promesse avec son thème attractif. Nous allons entendre tant dans les plénières que dans les ateliers des collègues intervenants de grande qualité, des enseignants, des responsables universitaires, des membres de nos sociétés groupales amies et des praticiens expérimentés. Ce colloque va nous aider à penser le corps familial qui réunit les membres de la famille présents, mais aussi les absents, les ancêtres qui ont participé à construire cette entité commune. Dans le corps de ce colloque qui nous rassemble, pourrait-on dire, ce week-end, nous allons voir comment chaque famille construit sa personnalité, son identité dans les échanges et les résonances d'un corps partagé. Comment chaque membre du corps familial, immergé dans l'héritage des éprouvés et des fantasmes inter- et transgénérationnels, partage au sein de la famille une manière de vivre le corps et les sensorialités. Dans la matinée, après un abord philosophique, puis psychanalytique du corps familial, nous rapprocherons le corps familial et l'arbre généalogique, le corps familial et la maison familiale. Nous verrons l'habitat intérieur, mais aussi le corps familial malade. Dans l'après-midi, nous irons dans le corps des ateliers. Nous verrons que dans son évolution, la famille vit des crises qui nourrissent ce corps, mais qui réveillent aussi des vécus corporels et émotionnels particulièrement intenses, notamment à l'adolescence, en périnatalité. Nous écouterons les résonances familiales et nous serons touchés aussi par la voix d'un atelier. La mise au monde n'est-elle pas une mise en voix, nous propose-t-on ici. Nous serons invités aussi à une réflexion autour des ressentis du corps familial, des expressions du corps commun souffrant, du corps familial incestueux, de la place du corps et des corps dans l'inceste, ou encore des pathologies du comportement de l'agir. Quels sont les retentissements des pathologies du groupe familial sur et dans les corps individuels ? Nous entendrons aussi les expressions somatiques corporelles, les troubles alimentaires, les confusions des corps, le corps familial vieillissant, mais aussi le retentissement des situations extrêmes et des catastrophes sur le corps familial des familles survivantes. Nous terminerons sur les failles, en fin d'après-midi, sur les failles des enveloppes et du moi peau, sur les traces corporelles, les marques, les signes dans et sur le corps, comme les tatouages, les piercings. Pour récompense et satisfaction de nos sens, les oreilles de notre corps seront enfin conviées à écouter en fin de journée un intermède musical et festif de voix et de chants. Le dimanche matin, après avoir suivi les pérégrinations des effets fantômes dans le corps familial, nous pourrons terminer ce colloque sur comment comprendre les liens qui entravent notre individuation, comment sortir du corps groupal pour se retrouver dans la capacité d'être relativement seul face au corps familial et devant la famille. Nous pouvons longuement débattre dans ces journées, le corps familial. On peut se questionner, peut-il être avancé comme un concept pour les thérapeutes familiaux? Quelles sont ses différences avec l'appareil psychique familial? Ne nous parle-t-il pas de cette âme familiale qui traverse les générations, comme le disait André Ruffio? Nos colloques précédents nous ont apporté des richesses, des créativités, des partages, des outils pour penser encore nos pratiques, pour redire combien l'outil des thérapies familiales, psychanalytiques, est opérant dans le soin à la famille. Je souhaite que ce colloque organisé par notre société, qui aura maintenant 15 ans en 2010, nous fasse encore penser et qu'il enrichisse nos pratiques. Quelques points d'organisation pour terminer. à la pause de ce matin, ceux qui ne sont pas encore inscrits dans les ateliers, complétez vite les tableaux, puisque au bout d'un certain nombre, nous serons obligés de dire complet et vous serez obligés de choisir un autre atelier. À cette même pause, après vous avoir inscrit donc, sur ces panneaux, vous pouvez aller prendre un café dans l'autre salle. On vous indiquera peut-être à la sortie, là, et où la librairie Lipsy vous attend. Les intervenants sont invités à se retrouver le midi. L'après-midi, les participants aux ateliers se retrouvent à 14h. Les salles sont distribuées sur le site des diaconesses. Vous demanderez aussi à l'accueil. On vous donnera une petite précision peut-être en fin de matinée. C'est vers 18h qu'aura lieu l'intermède musical avec Michel Tauber et Misha Nisomov. Voilà, je vais rapidement passer la parole à notre modérateur de la matinée, Christine Leprince, et je vous souhaite encore un très bon colloque.
Bonjour à tous. Je suis ravie d'accueillir donc à cette table Monsieur Claude Birman, philosophe, et Patrice Cuinet, qui est professeur de psychologie clinique à l'Université de Besançon, et Monsieur Claude Birman, philosophe, professeur de philosophie qui a travaillé aussi en classe préparatoire et directeur de programme au Collège de philosophie et qui a beaucoup travaillé sur les rapports de la philosophie et de la Bible. Donc nous allons commencer, comme souvent nos colloques, par une réflexion qui va nous permettre d'aspirer à des niveaux un petit peu plus théoriques, disons, de confronter nos valeurs de la thérapie familiale psychanalytique avec justement tout ce qui a travaillé dans le champ social de la pensée philosophique, sociale, historique, pour ne pas oublier que malgré toute la pathologie que nous traitons, il y a aussi à comprendre peut-être tous ces soubassements extrêmement importants de ce qui construit la famille. Donc je vais donner la parole à Monsieur Claude Birman, qui va vous parler aujourd'hui du corps familial, les origines, constitution, finalité, entre nature et histoire.
30 minutes.
Voilà. Est-ce que ça marche d'abord ? Oui. Voilà, alors, donc, ma mission m'a été confiée par Florence Barouk est d'introduire votre colloque en revenant sur les déterminations fondamentales de la notion de famille et même plus précisément de corps familial. Alors bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, dans cette notion de corps familial, il y a on pourrait appeler ça une ambiguïté ou un jeu de mots, puisque corps familial, ça veut dire à la fois que la famille forme un corps, au sens logique, hein, c'est-à-dire un tout dont les parties sont solidaires, hein, une notion qui a été d'abord employée par Claude Bernard, hein, pour inventer la physiologie, hein, le fait que le corps forme une unité dont les parties sont absolument solidaires, contrairement à un tas de cailloux. Voilà. Donc d'un côté, des membres unis, et en même temps, hein, c'est la contradiction interne, le fait que chaque membre est en lui-même une sorte de finalité du tout. Bien. Voilà. Ça, c'est la comparaison qu'on peut faire entre une famille et un organisme. Alors, bien sûr, je vois bien que dans votre colloque, il s'agit aussi de voir la dimension proprement physiologique, alors cette fois corporelle, physique, hein, du corps de chacun des membres de la famille, de son corps, au sein même de la famille. Un peu comme donc le plus beau plan d'Avatar, hein, ceux qui ont vu ce grand film commercial, hein, où on voit le people, hein, les gens qui se tiennent les uns les autres pour former en quelque sorte un tout. Hein, voilà, c'est l'image même de la famille comme corps, hein, où chacun tient les autres, ils se tiennent physiquement, et où pourtant chacun, d'une certaine manière, a son identité personnelle. Alors ça, c'est un peu l'idée profonde, l'idée philosophique, pourrait-on dire, de la famille, et en même temps peut-être son utopie, bien sûr, parce que à partir de là, il y a tous les risques d'échec, hein, risques internes et externes, hein, à cause de facteurs intérieurs et de facteurs extérieurs, qui remettent en question cette possibilité d'une unité solidaire dont chaque membre soit en quelque sorte une fin en soi. Voilà. Ben, ça, c'est l'idée. Alors, j'ai proposé un parcours de quelques références dans le temps que nous avons. Hein, et donc, je vais être forcément rapide, d'autant plus que la référence, à mon sens, la plus éclairante, la plus intéressante pour moi, c'est la dernière. Donc, hein, je fasse attention au temps. Hein, voilà. Donc, des choses bien classiques et bien connues, il faut toujours revenir aux choses les plus fondamentales. En philosophie, où vient la question de la famille? Elle vient en fait de manière indirecte, si on peut dire, à partir de la question de la légitimité du corps politique. Notamment, d'abord, il y a toute une discussion dans les politiques d'Aristote, justement pour expliquer que un État, ce n'est pas une famille. Au sens où, dans l'État, les citoyens, hein, dans l'État, dans la cité, tel que l'idéalise Aristote, les citoyens sont égaux entre eux. Alors que dans la famille, bien entendu, il y a une subordination pour des raisons naturelles, hein, entre les enfants et les parents. Donc ça, c'est comme ça qu'intervient la question, c'est-à-dire que l'idée étant à ce moment-là que si on dialectise cette opposition, qui consiste à dire que le chef n'est pas un père parce que les hommes ne sont pas des enfants, hein, voilà, et que si le père traite les hommes comme des enfants, à ce moment-là, les citoyens sont traités comme des esclaves et le chef devient un despote. Bon. Donc, il ne faut pas, hein, que la cité soit comme une famille. Donc ça va créer la tension entre famille et cité qui dure jusqu'à aujourd'hui et qui bien sûr est illustrée de manière très éclairante dans la tragédie de Sophocle, dans Antigone, hein, l'opposition terme à terme, repris par les philosophes ensuite, n'est-ce pas, entre la loi de la famille et la loi de la cité. Bon, pas entrer dans cette analyse. Ce qui est intéressant ici, c'est que le point de départ, la contestation du modèle familial par le modèle citoyen, c'est la question de l'égalité. Si on prend la cité pour une famille, à ce moment-là, on y perd l'essentiel, c'est-à-dire la libre personnalité de chacun, la libre égalité des citoyens. Voilà. Alors si on dialectise maintenant, on dirait que, en fait, au lieu de penser la cité comme une famille, vous voyez, ce qui permet à la famille d'origine naturelle de s'humaniser, c'est au contraire de penser jusqu'à un certain point, hein, les membres de la famille comme formant une petite société. Et c'est une dialectique, hein, parce que ça veut dire qu'au lieu de traiter les hommes comme des esclaves parce qu'on les comparerait à des enfants, on va traiter les enfants déjà comme de futurs hommes, d'où les droits de l'enfant, parce que bien qu'étant des enfants, ils ont pour vocation de devenir des personnalités libres. Voilà. Donc c'est plutôt à la famille de prendre modèle sur la cité qu'à la cité de prendre modèle sur la famille. Bon, ce que, évidemment, on peut aussitôt contester, hein, en rappelant que la famille a un privilège sur la cité, à savoir que ce qui unit les membres de la famille, ce n'est pas seulement la dépendance naturelle, c'est aussi, comme le dit par exemple Jean-Jacques Rousseau dans son Contrat social, justement, lorsqu'il réfléchit sur les rapports entre famille et cité, c'est aussi l'amour. Hein, le principe subjectif qui fait que les parents se soucient des enfants, non pas seulement par instinct, mais par amour. Voilà. Je cite un petit passage. La famille est donc, si l'on veut, le premier modèle des sociétés politiques. Le chef est l'image du père. Le peuple est l'image des enfants. Et tous étant nés égaux et libres n'aliènent leur liberté que pour leur utilité. Toute la différence est que dans la famille, l'amour du père pour ses enfants le paye des soins qu'il leur rend. Voilà. Et que dans l'État, le plaisir de commander supplée à cet amour que le chef n'a pas pour ses peuples. On ne peut pas comparer l'intérêt que prend un chef à son peuple à l'amour qu'a un père pour ses enfants, puisque ce serait finalement aliéner la liberté des citoyens. Donc il y a une distance au sein de la cité qui fait que finalement le lien entre les membres de la cité n'est pas aussi subjectif que le lien entre les membres de la famille. Hein, ce qui fait que la tension demeure, puisqu'on peut opposer, donc, dans un cas, on perd l'égalité, mais on gagne l'affectivité. Dans l'autre cas, on perd l'affectivité, mais on gagne l'égalité. C'est cette tension entre cité et famille qu'on retrouve, bien sûr, par exemple, dans la tragédie d'Antigone, hein, où, pour Antigone, seul compte l'unité de la famille, et tous ses frères en font partie, et elle ne veut pas savoir si il y en a un ou un autre qui a plus de mérite dans la cité. Voilà, voilà la première point de départ en philosophie de cette question. Alors, ceci amène ensuite, si on se recentre sur la question de la famille elle-même, à penser à l'intérieur de la famille. Vous voyez, là, on a vu le rapport extérieur famille-cité. Maintenant, si on intériorise cette contradiction entre l'unité de la famille et la vocation des membres de la famille, notamment des enfants. Je termine peut-être ma phrase d'abord, notamment des enfants, à devenir des personnalités libres. Hein, mais aussi, on pourrait-on ajouter que cette contradiction se développe dans toute l'unité de la famille, puisque les parents aussi, en un sens, ne sont pas là seulement dans la famille pour les enfants, mais aussi pour eux-mêmes. Et pour s'accomplir eux-mêmes. Donc il y a toujours cette contradiction entre accomplissement individuel et unité, comme dit Hegel, pour passer à Hegel maintenant, substantielle. Hein, c'est sa définition de la famille. Alors, comme vous savez sans doute, même si on ne sait rien de Hegel, on sait qu'il aimait bien la notion de contradiction, qui pour lui est justement le ressort de la pensée. Hein, et dans sa philosophie du droit, lorsqu'il définit la famille d'un point de vue éthique et juridique, il l'a défini comme substantialité immédiate. Vous voyez, il y a différence, ça c'est une traduction. Pour bien comprendre Hegel, il faut toujours prendre au moins 3 traductions en français, le texte allemand et souvent l'anglais qui est plus clair. Hein, voilà. Parce que c'est difficile. Alors si je vous dis la phrase dans la traduction reçue, la plus récente, celle de Kierkegaard, en tant que substantialité immédiate de l'esprit, la famille a pour détermination sienne son unité. Éprouvant le sentiment de soi, l'amour, du coup, hein, de sorte que la disposition d'esprit est d'avoir la conscience de soi, de son individualité, en cette unité. C'est-à-dire si quelqu'un se sent être comme membre de la famille. En tant que, qu'essentialité qui est en soi et pour soi, c'est-à-dire il y a engagé quel lien, c'est parfois un peu lourd, mais c'est toujours très précis au fond. Hein, afin d'être en elle, c'est-à-dire pour chaque individu, être dans la famille, n'est-ce pas, non pas comme une personne pour soi, mais comme membre, Mitglied. Comme partie. Voilà. Donc la définition de la famille, c'est d'abord en quelque sorte un renoncement, hein, pourrait-on dire. Enfin, ce n'est pas un renoncement, puisque peut-être un renoncement pour les parents, hein, mais c'est d'abord justement l'appartenance à l'unité. Hein. Alors, après Rousseau, Hegel revient beaucoup là-dessus, sur cette Einheit, cette unité substantielle de la famille. Bon. Mais en même temps, hein, et c'est, là on était dans l'article 158, en même temps, la tension, n'est-ce pas, c'est que d'un point de vue éthique et juridique, mais aussi on pourrait dire d'un point de vue ontologique, la finalité de la famille, hein, est en même temps sa dissolution, hein, à Auflösung, hein, puisque le but, hein, puisqu'il y a, comme on disait tout à l'heure, origine, constitution, finalité de la famille, l'origine de la famille est naturelle, c'est, hein, ça je ne l'ai pas pris en détail, mais explique Rousseau, c'est la dépendance des enfants qui ne peuvent pas se développer tout seuls, ni naturellement, ni humainement. Hein, le problème de l'éducation. Hein. Bon. Donc, c'est l'origine naturelle, mais la constitution de la famille est évidemment conventionnelle, puisqu'elle introduit toute une dimension institutionnelle et culturelle, parce qu'il s'agit de faire des hommes et non pas des animaux. Voilà. Mais la finalité de cette constitution est bien comprise, n'est-ce pas, avec tous les obstacles sur le chemin, est en réalité la dissolution, qui donc ici, hein, dans le paragraphe 159 de Hegel, prend un sens positif. La dissolution n'est pas un échec, c'est au contraire un accomplissement. Hein, il y a souvent chez Hegel cette idée que l'accomplissement d'une chose, c'est sa dissolution, c'est-à-dire sa concrétisation dans la séparation. Hein, Absum Deorum, hein, par exemple, c'est comme ça qu'il va définir la réussite du christianisme, c'est la pluralité des églises. Vous voyez, parce que ça veut dire qu'on va parvenir à une différenciation, une singularité des positions qui n'est pas un échec, mais un accomplissement. Alors c'est vrai aussi pour la famille, c'est-à-dire que le but de la famille est de produire des individus libres, hein, des personnalités libres et responsables juridiquement, voyez, qui parviennent à l'autonomie. Bon. Alors ce qui n'empêche pas, ça Rousseau le disait, que le caractère spirituel de la famille se maintienne, voyez, mais... c'est-à-dire que les enfants devenus adultes restent liés à leurs parents. Rousseau parle beaucoup de ça à la fin de l'Émile. Hein. Mais à ce moment-là, il s'agit d'une alliance spirituelle qui n'implique plus de dépendance naturelle ou juridique. Et voilà. Tout ce que je viens d'expliquer depuis le début est parfaitement évident en un sens, mais ça gagne beaucoup à être formulé avec rigueur. Voilà. Bien. Et ça nous a déjà pris un quart d'heure. Hein. Voilà. Alors, en un sens, on a tout dit, hein, mais il reste peut-être l'essentiel, c'est que cette définition, disions-nous éthique et juridique, hein, à la fois naturelle, éthique et juridique de la famille, reste abstraite si elle ne prend pas en compte le contexte dans lequel elle se développe. Hein. Alors, si on le prend de manière abstraite, on pourrait concevoir un petit groupe humain, d'abord tout proche dans la préhistoire de la vie des singes, qui développe sa propre humanité par un développement à la fois du sentiment, développement spirituel, et en même temps développement culturel, institutionnel, en passant par le langage, etc. On peut faire toute une préhistoire de la famille, voilà, et on arrive... à cette unité qui développe non pas seulement le respect de ses membres, hein, et c'est beaucoup plus radical que ça, mais une unité dont la finalité est la promotion de l'autonomie de ses membres. Et, hein, c'est pour ça que la famille est en même temps une dynamique dans le temps, ce n'est pas un état, hein, puisque c'est un processus, une sorte de laboratoire qui produit des êtres humains, et, qui a pour vocation et finalité de produire des êtres humains finalement libre et indépendant. Voilà. Hein, bon. Hein, donc il faut concevoir cette sorte de... Hein, c'est pour ça que le mot est... C'est toujours des mots précis qui retiennent l'attention. Vous voyez, dans le texte de Hegel, le terme le plus intéressant, finalement, c'est dissolution. Voyez, puisque ça dit bien la raison d'être fondamentale. Hein, la raison d'être de la famille, c'est sa dissolution. Hein, ce qui est évidemment complètement dialectique. Voyez. Mais cette dissolution suppose une liaison très étroite entre les membres. Hein, parce que les enfants, ça ne pousse pas tout seul. Hein, on cite souvent la plaisanterie, hein, quelqu'un qui disait « Oh, les enfants, finalement, ça pousse tout seul. » Et un de mes amis répondait « C'est comme les plantes, les paysans savent ça. Hein, » bon, hein, voilà. Donc, il faut des liens très étroits et dans les deux sens. C'est-à-dire il faut à la fois une très grande proximité et d'une très grande attention les uns à l'égard des autres pour éviter soit hein, les deux échecs de la famille, hein, vous connaissez tous beaucoup mieux que moi, qui serait soit la possessivité, hein, qui est une sorte d'implosion, vous voyez, hein, y compris tout ce qui relève de l'inceste, à tous les sens du mot, soit donc la destruction de la famille par implosion, comme un poste de télé qui implose, vous voyez, soit au contraire l'abandon, hein, qui évidemment sont les deux faces d'un même échec. Hein, comme disait Aristote, le juste milieu entre deux excès, hein, n'est pas un compromis, mais un sommet, comme le sommet d'un triangle isocèle. Et quand il disait le courage, ce n'est ni la lâcheté, ni la témérité. Et de même, la famille, ce n'est ni la possessivité destructrice, hein, ni l'abandon. Donc, ni la dispersion prématurée, ni une unité close qui ne laisse plus à ses membres la possibilité de développer leur vocation, d'accomplir leur vocation. Voilà. Alors ça, c'est donc c'est ça dont je dis que tel quel, c'est une conception très éclairante qu'on peut beaucoup approfondir dans la philosophie du droit de Hegel, si ça vous intéresse. Ça prend un texte qui est très dense, ça prend quand même 10 ou 15 pages avec les notes, etc. On peut développer cette idée. Hein. Mais si on veut aller plus loin, il faut la contextualiser. C'est pourquoi j'avais proposé d'appeler cette intervention corps familial, le corps familial, n'est-ce pas, origine, constitution, finalité, mais entre nature et histoire. Bon, alors, bon, la nature, on en a parlé. Hein. Bien sûr, on n'a pas tout dit sur le rapport entre la famille et l'histoire, hein, puisque la famille est portée par la nature, elle est préparée par la nature, oui, mais elle ne se constitue dans son humanité que par une résistance aussi. Évidemment, par une résistance à des tendances naturelles, oui, des tendances incestueuses ou destructives, ou destructrices, n'est-ce pas, que, qu'on trouverait dans la nature. Enfin, toujours expliquer aux jeunes étudiants, n'est-ce pas, que certes, les Saint-Bernard sauvent les gens dans la montagne, et même ils peuvent garder les petits-enfants sur une plage, mais de temps en temps, ils les mangent. Oui. Bon. Hein. Et donc, de ce point de vue, les enfants savent très bien tout ça, et c'est ça, qui est, comme a montré Bettelheim, le secret des contes de fées, c'est que les enfants savent que les parents sont à la fois des fées, les mères peuvent être des fées, hein, mais des ogres, voilà, et aussi des ogres. Hein, voilà. Hein, et ça, on peut dire que cette dimension destructrice de la famille est liée à, en quelque sorte, à, aussi à son origine naturelle. Hein, et que donc, il ne s'agit pas d'idéaliser la nature, que la famille est en un sens soutenue par... comment dire, promu hein, par une tendance naturelle hein, et en même temps empêché par la nature. Vous voyez, on connaît toutes les critiques de Baudelaire de la bonté naturelle sur les deux, hein, l'enfant qui tète sa mère et le petit frère qui tète l'autre sein, il dit, on voit dans son regard déjà l'assassin. Hein, hein, bon, bien. Voilà. Alors, donc, d'une part, la famille doit surmonter la nature, ça c'est peut-être le plus... Alors ça, c'est tout le travail de la culture. Et, hein, c'est de sortir de l'ambiguïté pour que la famille soit justement un lieu d'humanisation. Mais s'il n'y avait que la nature, ça serait simplement l'opposition nature-culture. Hein. Et c'est là peut-être où une référence biblique peut être éclairante, hein, puisque le propre du récit biblique, à mon sens, c'est d'avoir en quelque sorte ajouté une dimension, hein, et de dire que l'aventure humaine n'est pas simplement une lutte contre la nature, mais aussi une lutte contre la nature dans l'histoire, hein, c'est-à-dire dans le contexte d'une dérive de la culture. Puisque l'histoire, c'est d'abord, hein, comme disait Hegel, qui a repris tout cela, l'histoire, c'est d'abord l'histoire de l'esclavage, c'est d'abord l'histoire de l'oppression. Parce que les hommes, quand ils sortent de la nature, commencent et continuent par s'opprimer mutuellement, même si parfois, comment dire, ils vont au-delà, hein, mais c'est presque inévitable, pour des tas de raisons qu'on ne peut pas développer ici, hein, justement parce qu'ils sortent de la nature, et donc ça commence mal, l'histoire commence mal, comme disait Kant, hein, bon, contre toute utopie. Alors ça, c'est vraiment l'idée biblique. Hein, et donc, quand je voulais préparer cet exposé, m'est revenu aussitôt à l'esprit un verset biblique auquel je voulais venir et qui me paraît vraiment très éclairant parce que, comme souvent, n'est-ce pas, dans les grands textes, c'est comme ça, c'est-à-dire que vous avez tout dans chaque phrase. Il y a une formule biblique qui résume complètement ce problème de la famille. Je ne pense pas que beaucoup d'entre vous le connaissent par cœur puisque cette culture s'est un petit peu perdue. Mais à mon sens, elle reviendra sous une autre forme. C'est, il s'agit du verset 46 du chapitre 12 de la Genèse, de l'Exode, de l'Exode 12, 46. Alors, un mot rapide. Donc, qu'est-ce que c'est que Exode 12 C'est le point culminant du récit de la sortie d'Égypte. Donc, on a un peuple dans le récit qui réchappe d'une oppression radicale. Il faut se rappeler le contexte, puisqu'il s'agit non pas simplement de la servitude, mais donc d'une tentative d'extermination. Hein, ce sont des récits mythiques, très anciens, hein, mais très, très réfléchis. Hein, voilà. Et donc, dans ce chapitre 12 précisément, il s'agit que ce peuple qui veut échapper à l'oppression soit en quelque sorte à l'abri des cataclysmes qui vont s'abattre sur les oppresseurs. C'est ce qu'on appelle les fameuses plaies d'Égypte, qui peuvent être représentées par l'image de fléaux apportés par un dieu transcendant, hein, mais qui, bien entendu, peuvent être compris aussi comme une sorte de catastrophe, hein, d'autodestruction d'une société vicieuse. Et c'est un grand principe de philosophie politique, c'est que ce qui permet à une société de durer et de développer, c'est la justice, et que là où il n'y a pas justice, ça, en fait, c'est un effondrement qui se prépare, hein, même si on ne le voit pas tout de suite, il est inévitable. Hein, voilà. Les empires oppresseurs ont pour vocation, même si ça met des siècles, de toute façon, il ne reste rien. Voilà. Et donc l'idée ici, c'est que cette Égypte noircie par le récit biblique, mythique, hein, qui correspond peut-être au XIIIe siècle, hein, une idéalisation du déclin du dernier empire, hein, du nouvel empire égyptien. Donc on a cet effondrement, qui est donc dans le chapitre 12, qui prend la forme de la fameuse dixième plaie. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu la Bible, ont peut-être vu le film de Cécile B. 2000, hein, qui était très réussi, d'aplomb. Hein. Et la dixième plaie, c'est ce qu'on appelle la mort des premiers-nés, Makot Bechorim. J'ai retrouvé moi-même, alors j'en sais pas assez pour savoir, mais j'ai retrouvé ce mythe de la mort des premiers-nés, par exemple, dans un texte hindou. Hein, donc c'est une notion de mythologie qu'on pourrait certainement explorer dans beaucoup de cultures, et ça a une signification très précise si on réfléchit. La mort des premiers-nés, en fait, c'est l'échec de la famille, parce que le premier-né, c'est une image, n'est-ce pas ? Le premier-né, c'est dans la conception traditionnelle, c'est la lignée, et c'est celui qui, en quelque sorte, plus que la lignée encore, c'est un mot très juste ici, mais il faudrait analyser l'idée de lignée, c'est l'idée que la famille soit animée par, au fond, l'avenir d'une puissance et d'une capacité d'initiative. Et puisque l'aîné, c'est celui qui prend l'initiative, qui, comme on dit dans la pensée biblique, la pensée rabbinique ancienne, qui ouvre la matrice. Hein, le premier qui, hein, voilà. Et donc, c'est cette idée d'ouverture qui sort du ventre de sa mère, hein, qui ouvre la matrice, comme là, les Hébreux vont sortir d'Égypte. Hein, cette ouverture signifie symboliquement le fait que la finalité de la famille est de produire une capacité originale, nouvelle, singulière, de prendre position dans les problèmes du temps, hein, de ce que Hannah Arendt appellerait les enfants comme nouveaux venus, hein, qui vont apporter une nouvelle vision. Hein, si, évidemment, cette nouvelle vision, ils peuvent toujours l'apporter, s'ils n'ont pas été éduqués comme il faut, etc., ils ne pourront pas la manifester. Donc, quand quelqu'un manifeste une nouvelle vision, il y a évidemment derrière, vous voyez, toute une sorte de supporting group, comme disent les Américains, hein, c'est-à-dire tout un milieu, hein, producteur, hein, qui a préparé et qui a permis cette possibilité comme un terreau. Voilà, bien. Hein. Alors, la mort des premiers signifie finalement cet échec de la famille. Vous voyez. Donc, en contrepartie, le problème dans ce récit du chapitre 12 pour les Hébreux et pour les familles. Alors c'est pour ça que c'est très intéressant, parce que dès le début du chapitre, il s'agit bien d'un peuple qui se définit par famille. Hein, une famille à côté d'une famille. Et la mission qui va être confiée pendant l'arrivée de cette plaie et au moment de cette sortie d'Égypte à chacune des familles, c'est en quelque sorte d'assurer son unité et de se retirer en elle-même, voyez, pour ne pas faire partie de ces familles qui vont être détruites. C'est une sorte de protection. Donc on a là, hein, et donc, au début du texte, donc, oui, je ne suis pas encore à mon verset important, je vais vous faire vite, vous avez cette idée que, chaque famille, hein, alors en hébreu c'est Bet Avot, la maison des pères. Hein, donc ici, par exemple, Henri Méchenic traduit la maison de ses pères. Hein, voilà. Donc chacun prend pour la maison de ses pères un agneau. Alors, je pense que vous avez retrouvé tous dans la famille, dans la tradition, c'est l'agneau, le fameux agneau pascal, qu'on partage en famille, et qui a donné la Pâque juive, mais qu'on retrouve ensuite dans la mythologie chrétienne et dans l'islam. Hein, voilà. Donc, chaque famille se définit par un agneau consommé en commun, hein, à l'intérieur de la maison. Bête, la maison, hein, qui est en même temps, vous voyez, la maison est en même temps le foyer, la famille. Voilà. Et si la porte est fermée, et si le sang de l'agneau est sur la porte, alors la mort des premiers-nés qui passent épargne, passe au-dessus. C'est de là que vient le mot Pâque, n'est-ce pas ? Pâque qui vient d'un terme hébreu, qui veut dire passer au-dessus, épargner, qui a donné Passover en anglais. Voilà. Donc on a une représentation absolument dramatique, mais absolument radicale, vous voyez, du corps familial ici. Hein, c'est que ce qui va permettre la sortie d'Égypte, c'est le fait que les Hébreux sont capables, à ce moment-là, de constituer de véritables familles. Vous voyez ? Que la mort des premiers-nés n'atteint pas. Parce qu'ils sont réunis, hein, c'est comme on dit la table familiale, ils sont réunis autour de cet agneau rôti qu'ils consomment ensemble jusqu'au bout. Hein, et, on insiste beaucoup, il ne doit pas rester même un petit bout. Parce que il n'y a rien qui reste, en quelque sorte. Il n'y a pas de reste. Voilà. Alors, j'arrive enfin à mon verset 46, qui est celui dont j'étais parti dans ma réflexion, et qui se termine par une notation par laquelle je voudrais terminer aujourd'hui, qui me paraît extrêmement éclairante. Voici, le verset est composé de trois parties. Et j'ai consulté beaucoup de traductions, et on pourrait passer beaucoup de temps à traduire, parce qu'il faut bien sentir la signification. Le verset commence, par exemple, dans cette traduction de Méchenic, qui est la plus récente en français, la plus réfléchie, et je trouve que sa traduction n'est pas claire. Il traduit « Dans une maison, on en mangera. Hein, » Il s'agit de l'agneau. Et en fait, ce n'est pas une maison, il n'a pas pu traduire mieux, mais c'est « Echad », c'est-à-dire, c'est pas « Rishon » qui serait la... une maison par rapport à deux ou trois, c'est la maison comme unité, le un de la maison. Alors, par exemple, « In one house shall it be eaten hein, ». Ça, c'est la King James version, souvent est très proche de l'hébreu. Hein, vous voyez c'est-à-dire que tout l'agneau doit être consommé à l'intérieur d'une seule maison. Hein, c'est une famille, un agneau, une maison, une unité. Et après, il y a toute une discussion pour savoir qui fait partie de la famille ou pas, à quelles conditions, etc., à ce moment-là. Hein, mais, et donc, ça, c'est la deuxième partie du verset. Donc, la première partie insiste sur cette unité substantielle dont parle ici Hegel, qui est représentée sous la forme de cet agneau rôti consommé en commun jusqu'au bout, et dont le sang est mis sur la porte pour, comme un signe pour la mort qui passe. Et donc, c'est des images très comment dire, inépuisables. Hein, voilà. Et la suite dit, tu ne feras pas sortir, alors c'est comme ça que traduit Méchenic, de la maison, hein, donc il y a ce qui est dans la maison et ce qui est dehors. Et ce qui est dans la maison à ce moment-là ne doit pas sortir dehors. Et qu'est-ce qui ne doit pas sortir de la maison ? La chair. Voyez ? Tu ne feras pas sortir de la maison de la chair au dehors. Mina bayit, de la maison. Hein. En hébreu, en plus, il y a min, hein, de la maison. Mina bassar, de la chair. Kutsa, dehors. Et il y a le dehors et le dedans. Et donc ici, la chair, Bassar, hein, dont au début de la Bible, on disait, n'est-ce pas, que quand l'homme et la femme s'unissent, il en résulte une seule chair. Une chair une, Echad. Donc la chair, l'unité de la chair ici, est en allusion à l'unité de la famille, l'unité de la chair de l'agneau, hein, dont aucun bout ne sort dehors, est en liaison avec l'unité de la famille et l'unité de la maison. Hein. Alors, dit comme cela, l'unité substantielle de la famille est dite. Mais il reste une dernière détermination, c'est que si la famille était seulement ce repli sur soi, voyez, alors ce serait le risque de l'abolition de la vocation à la liberté de ses membres. Voyez. Alors il faut comprendre que cette situation est en dynamique, ils sont en train de sortir d'une terre d'oppression en vue d'aller vers une loi et une terre de liberté. Donc comment le dit le verset ? Comment le dit le verset ? Je termine. Il le dit avec une formule qui, pour moi, est l'essentiel de la pensée de la famille et de mon exposé ce matin. Mais... non, c'est toujours comme ça, voilà. C'est toujours... la phrase se termine. Il le traduit comme ça. Et un os, vous ne lui briserez pas. Alors, on peut traduire de différentes façons. Par exemple, en anglais, neither shall ye break a bone thereof. C'est-à-dire que vous allez manger l'agneau jusqu'au bout. Hein, mais on ne brise pas les os de l'agneau. Pas un seul os de l'agneau doit être brisé. Bon. Ce qui signifie, à mes yeux, hein, que le squelette de l'agneau, si l'agneau, par l'unité de sa chair consommée en commun, symbolise l'unité de la famille, le squelette symbolise ici c'est l'os, hein, en hébreu c'est très un savoir substance, l'os, hein, symbolise ici en même temps cette solidité de la personne de chaque membre et du respect de l'identité de chacun et de la promotion de cette identité. On ne brise pas les os parce que les os représentent les membres de la famille en tant qu'ils ont pour vocation devenir des personnalités libres. Et donc, comme conclusion, voici un petit commentaire rabbinique qui illustre ça en le développant dans sa dimension spirituelle en disant « Ceci signifie, retranchez-vous dans vos foyers durant les nuits de l'exil afin de sauvegarder votre identité. Et que personne ne sorte du seuil de sa maison, alors c'est ça qui est très important, jusqu'à l'aube. Jusqu'au matin, alors ici c'est la notion, jusqu'à l'aube de la libération. C'est-à-dire que la finalité est de sortir de la maison. Vous voyez, cette dialectique, ça, simplement, le récit biblique dynamise la dialectique hein, en pensant les moments dans le contexte d'une résistance à l'oppression et de l'ouverture vers une liberté politique et spirituelle.
Je crois qu'effectivement, on peut remercier M. Birman. Moi, j'ai retrouvé le plaisir de l'élève qui écoute un professeur qui rend intelligent ses élèves. Le plaisir de la clarté, de la rigueur conceptuelle. Et puis, quelque chose qui, je crois, va vous résonner de façon effectivement familière avec des concepts qui traversent tout notre champ de réflexion. Hein, prise dans le paradoxe, dans ce que vous avez souligné déjà dans la préoccupation philosophique de cette dialectique, de ces paradoxes, de ce qui fonde la pensée, hein, la consubstantialité avec des choses extrêmement contradictoires, hein, puisque la famille, alors j'ai beaucoup apprécié, pour tirer juste quelques axes, ensuite je donnerai la parole à Anne Loncan qui est discutante, que je vous présenterai, mais peut-être tout de suite de voir hein, quelle résonance et quelle capacité effectivement dialectique nous devons garder en tension et dans nos esprits de thérapeutes et effectivement lorsqu'on écoute une famille, de bien voir toute cette immense champ de complexité que représente la famille dans son rapport intérieur, extérieur. Et je crois que, M. Birman, là, vous avez défini les principes même fondamentaux de la structure familiale en tant que corps, en tant que groupe, qui à la fois dépasse les individus, mais doit les étayer pour des individus libres qui doivent, d'une certaine façon, sortir de la famille, c'est-à-dire se socialiser. Et peut-être que ces deux grands interdits tabous qui sont repris là de façon magistrale à travers ces lectures philosophiques depuis l'Antiquité jusqu'à la Bible, en passant par les grands auteurs de notre modernité, c'est l'interdit de tuer et l'interdit de l'inceste. Mais qui dit interdit dit aussi qu'on a quand même envie de se manger et de s'entretuer. Donc je vais laisser maintenant la parole à Anne Lancan, qui est psychanalyste, psychiatre, chef de service de CMP Albi, qui fait partie de sociétés amies de la PIF, puisque nous nous retrouvons souvent dans les sociétés françaises de thérapie familiale psychanalytique, et qui va vous introduire cette... Et qui en plus, et je mélange toujours les noms, pas directrice, mais tu m'as dit... du Divan, de la revue du Divan, rédactrice en chef, voilà, rédactrice en chef du Divan familial, qui est la revue de la Société française de thérapie familiale, qui est sur l'étape de l'IPSI. Donc Anne Lancan va discuter, on va reprendre un petit peu ces axes tout à fait clairs et néanmoins riches et complexes que nous a permis de réfléchir Monsieur Birman. Donc Anne, je te laisse la parole.
Merci, et merci à M. Birman pour cet exposé multiforme, très complet, ce voyage dans l'histoire, pour revenir pratiquement à la préhistoire à travers la Bible. Alors, c'est un petit peu difficile de commenter sans empiéter sur les aspects suivants.
Plus près.
Oui, mais enfin, je crois que je... Ah, peut-être plus vertical, alors. Plus vertical, oui. Je vais quand même laisser les eaux, moi aussi. Bon, donc nous avons fait ce voyage à travers l'histoire, de la nature, entre la nature et l'histoire. Et je vais essayer de reprendre un petit peu ces différents points sans aborder nécessairement les aspects psychanalytiques du corps familial qui seront développés par Patrice Cuinet, mais nécessairement nous aurons des points de recoupement. Alors, la nature et l'histoire, effectivement, nous en sommes à un point aujourd'hui où l'histoire même nous a conduit à une prise en compte de moins en moins importante de la nature dans la vie de la famille, à tous égards, et notamment à travers, bien sûr, ce que tout le monde sait et qui sera peut-être abordé dans ces journées, c'est-à-dire les procréations médicalement assistées ou socialement assistées. Donc la nature, nous nous en éloignons, mais pour autant le corps familial existe et continue à se perpétuer, quelles que soient les modalités d'entrée dans ce corps familial. Alors, je crois qu'on ne peut que souscrire à ce que soulignait Claude Birman au sujet de l'importance de la dialectique du tout et des parties, avec pour finalité le fait que chaque membre de la famille puisse s'en dégager, s'autonomiser, tout en lui restant lié. Cet élément est tout à fait visible dans ce que, je crois que c'est Hegel que vous avez cité à cet égard, développe. Néanmoins, j'ai eu l'impression que dans les éléments que vous avez évoqués, que je ne connais pas, je n'ai pas lu ces textes, j'avais l'impression que la part qui revient à la continuité de la famille et aux ancêtres était un petit peu, n'était pas mise en avant, en tout cas. Je ne peux pas dire qu'elle est négligée, puisque je n'ai pas lu le texte, mais ça n'était pas mis en avant. Et c'est un point que l'on retrouve tout de même avec beaucoup d'ampleur dans la dernière partie concernant la Bible. Et c'est à cet égard que cette conclusion est particulièrement intéressante dans votre approche. Alors, pour revenir sur la constitution de la famille et son lien à la fois en amont et en aval vers les enfants, ce qui termine aussi le texte sur la Bible. Hein, il y a à la fois la référence aux ancêtres, la maison des pères, et puis l'ouverture sur l'avenir à travers les enfants et la sortie de l'oppression, en même temps que la sortie de la famille, en quelque sorte. Donc, la constitution de la famille ne peut se passer d'une reconnaissance symbolique qui la constitue. Et cette reconnaissance, elle est aussi bien intérieure qu'extérieure. Vous avez du reste souligné cette dialectique permanente entre les rapports avec l'extérieur et les rapports internes de la famille, avec la nécessité de promouvoir les membres, y compris donc et surtout pour qu'ils puissent regagner l'extérieur de la famille. Alors, les éléments que nous avons sur le plan de la réflexion psychanalytique familiale nous permettent de partir de des éprouvés sensoriels premiers qui constituent la psyché familiale, le socle de la psyché familiale. Enfin, ce ne sont pas des éléments que je vais développer, mais que chacun ici dans la salle auquel chacun pourra se référer et connaît. Donc il y a ces éléments qui s'inscrivent et se prennent consistance à travers notamment la prise des repas. Je crois qu'on retrouve ça dans votre dernière partie concernant la Bible, mais le repas est un rite organisateur de la famille qui contient beaucoup plus probablement que le seul fait d'ingérer des aliments ensemble. Il y a donc toute cette... ces rituels qui existent encore aujourd'hui, qui, dans certaines familles, séparent encore les hommes des femmes. Enfin, je pense au Pays Basque, par exemple, dans certains endroits où ça se passait encore il y a quelques années. Ça, je ne l'ai pas vérifié récemment, mais c'était le cas. Séparation que j'ai constatée aussi, par exemple, en Arménie, il y a quelques années aussi. Donc il y a cette séparation sexuée, mais il y a aussi la place du chef de famille qui généralement est tout à fait marquée, immuable. Donc les places à table sont très importantes. Et lorsque les familles nous parlent de ces éléments qui constituent leur repérage intrafamilial, le repérage de leur fonction, de leur rôle, de leur place symbolique à l'intérieur de la famille, il y a bien souvent une superposition avec ces places à table et les rituels organisateurs. Alors, cela participe bien entendu de la constitution du soi familial, ce que nous évoquons comme soi familial, avec également d'autres éléments, d'autres apports qui sont les mythes familiaux, le travail sur les fantasmes originaires, l'interfantasmatisation. Enfin, je ne vais pas entrer dans ces éléments, je les cite simplement pour corroborer les éléments que vous nous avez apportés. Alors, donc, cette constitution de la famille, il me semble qu'elle a une unité qui se constitue à l'aide de marqueurs intrafamiliaux, mais aussi à l'aide d'éléments symboliques extérieurs à la famille et constitutifs de la cité aussi. Donc, ce rapport entre la cité et la famille est constant. Vous avez évoqué donc à cet égard ce qui sortait de la famille et ce qui n'y entrait pas ou ce qui en sortait. Enfin, toute cette question de la porosité de la famille et de la solidité de ces enveloppes familiales est tout à fait importante parce qu'autant la rigidité des enveloppes familiales fait qu'il y aura possessivité et éventuellement inceste, où l'absence d'enveloppe familiale, c'est la dissolution et l'abandon, effectivement. Alors, je voudrais revenir sur cette question d'inceste. Il me semble que cantonner la famille à l'indistinction des corps, c'est aussi autoriser d'une certaine manière leur interpénétration de manière indistincte entre les sexes et les générations, je dirais, puisque l'inceste se pratique à tous les étages et à tous les... Enfin, tous les concerne aussi bien un sexe que l'autre de manière hétérosexuelle ou homosexuelle. Donc ça, c'est un des écueils que vous avez signalé et que l'on retrouve bien entendu dans la clinique. Alors, par contre, sur la notion de dissolution que vous avez soulignée chez Hegel, il me semble qu'il y a quelque chose là qui manque peut-être. Donc, comme je semblais le comprendre, il me semble qu'il manquait le prolongement en amont de la famille, enfin le prolongement en amont, oui, la précession de la famille actuelle parmi les ancêtres qui apparaissait dans les éléments de Hegel que vous avez cités. Mais il me semble aussi qu'il y manque, à travers cette notion de dissolution, la notion de continuité, de transformation qui va permettre à la famille de se prolonger, de se poursuivre, mais de se transformer de manière continue. C'est aussi donc l'introduction de la temporalité. Alors évidemment, je ne sais pas comment elle est traitée dans ces textes-là. Encore une fois, je vous renvoie la question. Alors, je souhaiterais peut-être prolonger un petit peu mes questions à travers la dernière partie. Pardon, je peux poursuivre, oui. Sur la dernière partie, sur cet épisode, ce verset de la Bible assez peu connu que vous indiquez, qui résume, qui condense tout ce qui représente l'ossature de la famille, puisqu'on en vient là pour finir. Alors, pendant votre récit, je pensais aucune chair ne doit sortir, ok. Mais alors, et les os, je me disais, et les os, est-ce qu'ils les mangent aussi? Oui, tout à fait. Alors, j'étais tout à fait rassurée lorsque vous avez indiqué quel était le destin de ces os, au moins sur le plan symbolique. Donc, c'était tout à fait complet de cette manière-là. Et il m'a semblé aussi qu'il y avait dans cet épisode un rite conjuratoire à travers la peinture du sang sur les portes de la maison. Donc il y a l'identification de la maison à travers ce rituel, mais il y a aussi donc une substitution symbolique qui est faite. C'est l'agneau qui va remplacer le nouveau-né qui devrait être mort. Donc la mort de l'agneau semble se substituer symboliquement à celle de l'enfant qui aurait dû mourir, ou qui aurait pu, ou qui aurait dû. Voilà, donc cette définition autour de la table me paraît importante, mais à ce sacrifice s'ajoute bien entendu le destinataire du sacrifice, qui ne me semble pas du tout anodin, et au contraire organiser l'ensemble. C'est-à-dire qu'il y a le rite, il y a la consommation du rite, et puis il y a la signification de ce rite et son inscription dans la famille et dans la société. C'est-à-dire que le sacrifice de l'agneau, il est fait pour le Dieu, c'est ce que j'ai compris. Et ce tiers symbolique est là, au-dessus, pour assurer la cohérence du tout, me semble-t-il. Voilà, alors je ne sais pas si vous aurez la possibilité de répondre à ces quelques questionnements. Je souhaiterais, et notamment, pour finir, je vous renvoie, parce que là, peut-être, je ne vais pas prolonger davantage. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments supplémentaires sur la dialectique du dedans et du dehors dans la famille? Voilà, je vous remercierai.
Merci Anne, vous voyez toute la richesse des prolongations que tout un chacun peut reprendre. Monsieur Birman, vous pouvez répondre brièvement, et on donnera la parole à la salle après l'exposé de Monsieur Cuinet. Donc on vous invite à garder toutes ces réflexions dans votre tête pour pouvoir ensuite avoir un temps conséquent pour discuter. Monsieur Birman, vous pouvez répondre.
Donc 5 minutes. 5 minutes. D'abord, pour détendre un peu, parce que... quand je vous écoutais, ça me rappelait une plaisanterie de juifs new-yorkais qui traîne sur Internet, qui disait finalement, vous parliez de rite, finalement toutes les fêtes juives se ramènent à 3 temps. Premièrement, ils ont voulu nous tuer. Deuxièmement, on est encore là. Troisièmement, mangeons. Alors, ça correspond un petit peu. Voilà. En ce qui concerne, donc je réponds un peu dans le désordre, parce que en ce qui concerne, vous avez évoqué bien sûr toute cette dimension, la question du Dieu, là, hein, c'est-à-dire, voilà, dans ce récit, cette dimension, parce qu'il y a la dimension naturelle, historique et spirituelle. Et le Dieu, ici, à mon sens, qui passe, hein, et qui accompagne un processus immanent, hein, de, hein, c'est, signifie cette, comment dire, cette dynamique, hein, de l'humanisation qui, à certains moments, accompagne la culture, la culturation, et qui, à d'autres moments, entre en contradiction avec les dérives de la culture. Hein, voilà, c'est donc, c'est l'important, c'est le mouvement. Hein, c'est le mouvement qui accompagne cette sortie, bon, cette libération. Voilà. Maintenant, quand vous avez l'autre point, vous avez rappelé, parce que je n'ai pas bien sûr eu le temps de développer, que la famille s'inscrit aussi dans une continuité temporelle. Alors déjà, on en avait parlé quand on parlait de la dynamique qui fait le passage des parents aux enfants. Voilà. Hein, bon. Dans le récit biblique, par exemple, il y a cette notation qui correspond à cela, qui est que, à part une ou deux exceptions, le récit dit que tous ceux qui sont nés dans la terre d'Égypte, hein, finalement vont mourir dans le désert, mais que ceux qui sont nés en dehors de cette terre d'exil sont ceux qui vont être en mesure de développer une territorialité libre, voyez, avant et après la loi. Donc, cette idée que ce n'est pas seulement une continuité au sens d'une répétition, mais que l'idée profonde spirituelle de la famille, c'est une continuation au sens d'une aventure créatrice, un peu bergsonienne. Et que donc, le foyer que vont bâtir les enfants, hein, est en un sens une reprise du foyer des parents ou des ancêtres, mais en un autre sens, c'est un renouvellement. Voilà. Il faut faire très attention parce que dès qu'on parle d'ancêtres, on peut s'enfermer dans une culture, dans une société sans histoire. Voyez, alors que là, l'ancêtre est en quelque sorte un tremplin. Voyez, pour voilà, l'essentiel est toujours du côté de l'avenir. Hein, c'est ça qui tend la dynamique de la famille. Hein, voilà. Et donc c'est la dynamique de son renouvellement. Voilà. Enfin. Oui, peut-être. Alors, évidemment, il y a une question que vous avez évoquée en passant, donc qui aurait été mon quatrième point, hein, mais qui épargne, et qui est évidemment la répartition, comme vous disiez, des rôles, hein, ce que vous appelez les marqueurs. Hein, voilà. Et quand vous dites, par exemple, que les Basques, les Arméniens séparent, hein, les pères, les hommes et les femmes, bon, il y a quelque chose d'archaïque dans ces représentations, ou la place du chef de famille, mais en même temps, ça a un sens, vous voyez, qui doit pouvoir être repris de manière, une manière qui dépasse les archaïsmes, qui dépasse les rigidités. Vous voyez, ce sens, c'est que peut-être la fonction, pourrait-on dire, hein, la fonction humanisante du père, fondamentalement, c'est justement d'ouvrir cet horizon d'avenir, c'est, hein, de cette intentionnalité d'un projet de renouvellement. Hein, créer, fonder, hein, et que, pour reprendre des termes philosophiques classiques, la fonction à ce moment-là maternelle, c'est de donner à cette intentionnalité, justement, une territorialisation, une concrétude singulière. Vous voyez, hein, l'enfant ne va pas être un enfant, mais cet enfant-là. Vous voyez, donc là, il y a une sorte de complémentarité entre le père et la mère, qu'on pourrait dire le ciel et la terre, hein, ce sens-là. Hein, qui vont faire un ciel, qui vont faire un nouveau ciel et une nouvelle terre, comme dit le prophète Isaïe, pour que il y ait une troisième dimension, qui serait le fait qui est représenté dans la pensée biblique par le Fils, hein, qui lui sera en fonction de ce cadre paternel et maternel, qui sera lui capable de prendre, de suivre un chemin et de prendre une nouvelle position. Oui, bon. Et la fille, à ce moment-là, elle représente la quatrième dimension, hein, qui est que non seulement il s'agit de prendre position de manière nouvelle, mais de rallier à cette nouvelle position, vous voyez, le monde donné, vous Et, hein, donc, de manière à ce qu'il y ait, hein, de même que, d'une certaine manière, le fils en faisant un petit ciel par rapport, hein, un ciel à l'intérieur du ciel, la fille va en quelque sorte représenter une humanisation de la terre à l'intérieur de cette ouverture d'une dimension humaine à la, terrestre à laquelle correspond la mer, ce qui fait qu'on a là une construction très symétrique et très une complétude des rôles. Et alors pour terminer, eh bien effectivement, c'est que finalement ce qui commence par une baillite, par une maison, hein, par construction d'une maison, se termine dans le palais de continuité par l'établissement d'une nouvelle maison, hein, mais qui se construit dans la, en référence à la première et en même temps dans un dépassement par rapport à la première, de manière inventive. Voilà.
Merci beaucoup. Vous serez sensible comme moi, justement, pour faire une introduction à l'exposé de M. Cuinet, justement à cette dialectique profonde, je crois qu'il faut garder en tête tout ce matin, entre ce qui nous intéresse, nous, psychanalystes, particulièrement, c'est-à-dire le monde de la passion, puisque le lieu de la famille, c'est aussi le monde de la sexualité, interdite entre parents, évidemment, entre membres, mais qui fonde la famille, puisque c'est des corps qui se réunissent, qui fondent, bien sûr, l'amour du couple et de l'envie de procréer. Donc cette dialectique entre ce monde des passions et effectivement tous les processus de civilisation, on pourrait dire, hein, de transformation, sublimation, tout ce que vous nous avez invité, d'ouverture effectivement sur l'ossature sociale. Il n'y a pas de famille sans social et il n'y a pas de société sans effectivement cette ouverture au monde de l'affectivité, de la passion. Et là, je ne serais pas tout à fait d'accord avec M. Birman. Je pense qu'on aurait intérêt à penser aussi le social, comme nous invitait Winnicott dans de remarquables textes sur la démocratie, de qu'est-ce qui infiltre aussi la passion dans les rapports sociaux et qui peut-être vise un petit peu, enfin, qui vise un petit peu tous ces rapports, effectivement, ou totalitaristes ou populistes, enfin, on pourrait dire, hein, tout ce qui infiltre le corps social aussi de ces passions maltraitées, mal transformées. Alors, notre champ à nous étant de revenir aux origines des passions qui construisent la psyché, parce que souvenons-nous que le corps dont parlent les psychanalystes familiaux, c'est quand même un corps psychisé dès le début dans ses interactions très précoces entre un petit et sa mère et son père. À toi. Alors, je vous ai présenté.